la première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Liège, chef-d'œuvre. Regard sur la collection du Musée des Beaux-Arts de Liège jusqu'au 18 août.
Il s'agit d'un événement d'importance puisque cette exposition s'intitule Liège chef-d'œuvre. Alors Liège chef-d'œuvre, bien, c'est avant tout l'occasion pour la première fois depuis la réouverture de ce lieu de présenter de manière très significative les richesses des collections de la ville de Liège, puisque cela se fera sur 3000 mètres carrés de surface d'exposition et que nous aurons, je pense, plus de 250 œuvres qui seront proposées à la visite.
À la Boverie, avec Jean-Pierre Huckens, Isabelle Verhoeve, Christophe Remacle, Françoise Safin, Jean-Marc Quay, Alain Delenoir, et les voix de Francisca Van de Piet, André d'Artevelle, Valérie Lemaître, extrait du documentaire d'André d'Artevelle intitulé Le Testament amoureux de Mel, Paul Bury, Jacqueline Liantry-Balthazar, Jacques Bourlet, Bart Wery, Alain Géronet.
Jean-Marc Gay, G-A-Y.
Et vous dirigez les musées de Liège, hein ?
Oui. 1547. Il s'agit de Lambert Lombard. Et ce qui est intéressant chez Lambert Lombard, c'est un des peintres de la Renaissance, et c'est qu'il invente, après d'autres, la perspective.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, tantum,
le monde invisible.
On a une toile ici, Sainte-Quitry, qui est purement gothique international, le style gothique international, c'est-à-dire où il n'y a strictement aucune perspective. Le sujet est plaqué sur un fond. Lambert Lombard, qui part vers 1530 en Italie, à Rome, lui va rencontrer des peintres italiens qui ont déjà inventé la perspective. Donc il va créer des toiles en perspective. Et alors ce qui est très émouvant, c'est que sa perspective est un peu ratée. Et moi, ça m'émeut profondément de voir quelqu'un qui a bien compris l'importance de la perspective dans l'art, mais qui a un peu de mal à la mettre en œuvre.
Liège, chef-d'œuvre, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Cette collection, elle a été constituée de différentes manières, mais également de dons très nombreux, parfois d'achats judicieux. Au-delà de la vente de Lucerne, on peut, et vous verrez dans l'exposition que le tableau y figure, pointer, n'est-ce pas, Madame la Première Conservatrice, l'achat d'une œuvre de Sonia Delaunay, alors que l'artiste était encore vivante et à l'occasion d'une de ses expositions, ce qui démontre qu'il y avait, il y a toujours d'ailleurs, une certaine pertinence dans les choix de nos équipes scientifiques. Parmi les principaux dons, bien entendu, celui du collectionneur Grain d'Orge, et nous célébrons d'ailleurs, dans le cadre de cette exposition, le retour d'un certain nombre d'œuvres, puisque vous savez que ce don très très important avait été fait à la communauté française, à charge pour elle de faire procéder à l'exposition des œuvres données à Liège. Bon nombre d'œuvres étaient parties, elles reviennent, nous nous en réjouissons et c'est vraiment une redécouverte. Et puis cela continue, bien entendu, les collections continuent de s'enrichir. Vous verrez que nous avons reçu, vous les découvrirez dans le parcours d'exposition, un dépôt long terme d'un collectionneur privé de 4 tableaux significatifs. Et nul doute que vous serez intéressé de les découvrir.
Les colonnes ne sont pas tout à fait aligné et le pavement, qui devrait être strictement horizontal pour donner un point de fuite, est un peu en pente vers la droite. Mais bon, ça ne gêne pas l'émotion qu'on peut avoir en voyant ça, mais pour moi, ça en ajoute une émotion, parce que je trouve que l'humanité est en train d'apprendre la perspective.
Christophe Remacle, restaurateur à la ville de Liège. Dans le cadre du montage de l'exposition, nous, les restaurateurs, on s'est attelé au nettoyage des cadres et des œuvres proprement dites aussi. On a fait des petites retouches, principalement dans les cadres, en fait. Les œuvres en elles-mêmes étaient en assez bon état.
Un sujet biblique, hein, puisque c'était aussi l'obsession quand même. Et là, c'est Jaël Isara, c'est une dame qui plante un gros clou dans la tête d'un pauvre monsieur qui a l'air déjà bien mal en point. Voilà.
On a oublié l'histoire.
Oh, oui. Oui, moi c'est un défaut de culture. Je suppose qu'il y a des gens à qui on dit Jaël et Isa, et voilà, qui bondissent sur la balle, moi pas. Mais cette toile m'émeut stylistiquement. Quoi.
La première partie de notre travail qui s'est faite en amont, donc avant que les œuvres ne se retrouvent ici au musée, le travail consistait à aller en réserve et voir si les œuvres étaient présentables ou pas, et d'intervenir sur l'une ou l'autre, soit au musée, dans le cas où il s'agissait d'interventions plus lourdes, on va dire, sinon des petites interventions comme des retouches sur les cadres, ça s'est fait ici sur place.
Et c'est vous qui décidez s'il faut restaurer ou pas ?
Oui, c'est nous. On va dans les réserves, on voit l'état de l'œuvre. Si l'on constate qu'il y a beaucoup à faire sur l'œuvre, soit on prend la liberté de le faire à l'atelier, soit on se dit c'est pas possible, on n'aura pas assez de temps, on élimine cette œuvre de la sélection et on se reporte sur autre chose aussi intéressant.
Le XVIIe siècle est quand même l'époque la plus importante au niveau de la peinture à Liège, hein, c'est le siècle d'or de la peinture liégeoise, avec aussi des gens qui sont allés en Italie, qui reviennent avec des nouveautés, et les deux portraits de Dufay, par exemple, sont très influencés par le Caravage. Et bon, ça aussi, Liège au bout du monde, mais qui va chercher, puiser de la science ailleurs.
Quoi. Au carrefour du monde, vous voulez dire.
Oui, voilà.
Hein, entre oui, l'Allemagne, la Hollande.
Oui. Mais bon, c'est plutôt le sud à ce moment-là qui attire. Et le voyage à Rome, c'est pas une partie de plaisir au XVIIe siècle. Hein. Enfin, je crois.
Donc c'est une exposition qui est une présentation chronologique des collections communales du Musée des Beaux-Arts. Donc elles sont présentées ici à la Beauverie. C'est le travail d'une équipe des différents conservateurs du musée des Beaux-Arts. Ça répond à ce qu'il y a dans les collections, mais aussi à des coups de cœur, peut-être plus personnels, et donc une belle découverte qui est garantie pour les visiteurs. Et là où nous nous trouvons pour le moment, il est davantage question de paysages, des paysages qui peuvent être animés, comme celui du Max Liebermann, par exemple, que nous avons ici, et que nous avons en plus tout à fait particulière, puisqu'elle appartient à ces fameux 9 tableaux qui ont été acquis lors de la fameuse vente de Lucerne en 1939.
Et de quoi les œuvres souffrent-elles le plus avec le temps ?
Principalement des écarts de température, les écarts au niveau de l'humidité aussi, les variations des taux d'humidité. Contre ça, on est équipé aussi bien dans les salles d'exposition que dans les réserves. On a un contrôle sur les variations de température et d'humidité. Les poussières aussi, évidemment.
Et alors, par rapport aux Dufay, qui sont deux portraits extrêmement léchés, très extrêmement précis, on tombe sur ces deux petits boudins qui sont impressionnistes, c'est-à-dire qu'en quelques coups de pinceau précis, mais qui n'ont pas l'air trop travaillés, on retrouve des plages à Trouville.
Nous sommes dans le sud de la France. En fin de journée, on a une lumière de fin de journée assez chaleureuse. Nous voyons la mer dans le lointain. Nous avons également son monogramme, TVR, donc Theo van Rijsselberghe, et nous sommes ici en 1919. Nous avons donc affaire à une œuvre où on est à la fin de sa période pointilliste. À côté de lui, on a un autre tableau pointilliste avec une ambiance tout à fait différente, qui est le tableau de Signac, qui nous montre une journée de grand soleil avec un très joli contraste d'ombre et de lumière pour le château de Comblat.
François Safin aime van Rijsselberghe.
Oui.
c'est Signac à côté.
À titre personnel, ce ne sont pas mes coups de cœur, ce sont de belles œuvres. Hein. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition, c'est que je crois que le visiteur peut faire des choix qui lui sont personnels. Il y a tellement et tellement différent que le visiteur peut choisir ce qu'il aime.
Quatre chefs-d'œuvre devant moi.
Hein. Oui, c'est pas mal. Hein.
Kokoschka, et puis...
Chagall, Ansor et Gauguin. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'aime aussi beaucoup le Gauguin, hein, qui est un très beau Gauguin. Parce que, bon, ça vous connaissez probablement, cet oiseau-là n'existe plus, il a disparu. Donc ce sont des cryptozoologues qui ont redécouvert cet oiseau-là, qui a disparu des îles tahitiennes peu après Gauguin. C'est une information quasi scientifique au milieu d'un tableau absolument parfaitement composé.
Moi, je suis Isabelle Verhoeven, je suis historienne de l'art et avec mes collègues, nous organisons de nombreuses visites guidées ici à la Bovary, bien entendu dans l'exposition. Et nous organisons aussi spécialement, parce que la demande est de plus en plus grande, le quatrième dimanche du mois, des visites guidées pour les individuels, mais qui doivent s'inscrire auprès de Artefact, l'association des historiens de l'art de l'Université de Liège. Et tous ces détails pratiques se trouvent sur notre site www.artefact.ulg.be.
Liège chef-d'œuvre. Regard sur la collection du Musée des Beaux-Arts de Liège jusqu'au 18 août. À la Bovary.
Ce qui est très intéressant, c'est que Rick Waters a été formé en tant que sculpteur. Donc, dès sa première jeunesse, il a travaillé dans l'atelier de son père, qui était un artisanat de meubles à Malines. Et ce n'est que par après qu'il a suivi des cours à Bruxelles, chez Van der Stappen.
Mais l'emprise d'une femme comme Nel sur l'œuvre d'un artiste comme Rick, qu'est-ce que cela veut dire?
Van der Stappen, qui était le grand innovateur de l'enseignement artistique, l'a influencé profondément. Donc c'est l'esprit ouvert, non seulement vers les arts décoratifs, mais vers le monde du réel. Donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour le développement du jeune sculpteur Rick Waters. Et comme on le voit souvent, c'est une carrière un peu parallèle. Et disons qu'à un moment donné, il a appris que la peinture pourrait signifier pour lui en fait plus que la sculpture qu'il connaissait du milieu familial et académique. Et donc tout ce qui est nouveau, intéressant, fascinant, il le trouve dans la peinture. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est la rencontre avec Simon Lévy, qui l'a présenté l'œuvre de Paul Cézanne. Et là, il voit une toute autre approche, même si c'est dans les reproductions noir et blanc, dans un premier laps de temps, nouvelle approche de forme, de lumière, de création de volume, parce que finalement, c'est l'œil du sculpteur qui entre dans ce domaine de peintre. Et ça, c'est un peu l'originalité et le caractère spécifique de cette peinture de Rick Waters.
Nel est-elle la muse, la déesse qui fait rêver l'artiste d'un bonheur exceptionnel, ou est-elle avant tout le modèle dirigé par l'artiste qui veut dépeindre une mode de vie simple et heureuse?
Si nous continuons peut-être la promenade, on peut peut-être s'arrêter auprès de l'œuvre ici du Rick Waters qui fait l'affiche où nous retrouvons son amoureuse de toujours, je vais dire, Nel, avec le choix de couleurs caractéristiques très colorées, très vives et de beaux contrastes entre le fauteuil rouge par exemple et une partie du fond du tableau en vert, donc des couleurs complémentaires qui apportent beaucoup de vivacité à ce tableau dont on reconnaît que Nel fait sa petite sieste ou regarde simplement par la fenêtre aux Pays-Bas puisqu'on voit passer sur un canal un voilier aux magnifiques voiles rouges.
C'était un homme fort sympathique, à mon avis, Rick Waters, une douceur dans la vie quotidienne avec Nel. Donc, disons que...
Francisca Van de Pie.
C'est exactement cette... Enfin, je ne dis pas cette contradiction, mais cette dualité qui détermine également l'esprit plastique.
Chaque année, à la même époque, je suis désemparée. Je revis après tant d'années les dernières heures de la vie de Rick, entre le 6 et le 11 juillet 1916. Des jours qui se sont gravés en moi, que jamais je ne pourrai oublier. J'étais sa femme et son modèle. J'ai vécu son œuvre de A à Z. Rick était incapable d'imaginer une figure de femme sans lui donner mes formes, mes traits. J'ai senti sa passion pour moi quand il me peignait ou me sculptait, plus que dans nos étreintes. Je veux sauver un peu de ma vie avec lui. J'écris toujours. Que voulez-vous ? Je reste plongée dans ce passé.
Je vais vous montrer autre chose. Deux messieurs sérieux, mais qui sont, du point de vue plastique, aussi intéressants que la Vierge folle.
Rick casse quelques branches, place sa toile. Il se met à peindre. Je me sens heureuse dans ce coin perdu. Une vraie féerie de lumière. Les reflets verts tendres se déplacent sur ma peau avec la brise. Cela le trouble. Dans cette gamme de verts, il fait la différence avec le rouge éclatant de la bouche, les yeux verts étranges, les paupières obliques, le vermillon des oreilles.
Ce sont effectivement des extraits de lettres que Nell a écrites à ses amis, après la mort de Rick, évidemment, dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre. Vous savez que Nell a survécu plus de 50 ans à son cher Rick Wouters et qu'elle s'est éteinte en 1972, je crois. Et donc, pendant toute cette époque de l'après-Rick, elle a beaucoup écrit. Moi, je pense qu'elle a écrit des centaines, sinon des milliers de lettres.
J'épouse Rick en avril 1905, dès que son service militaire s'achève. J'ai 19 ans, lui 22. Après, nous vivons des années de misère, mais nous nous aimons. Je crois en lui, en son talent.
L'espace a été investi pour faire des focus, en quelque sorte. Et là, pour le moment, nous sommes devant un ensemble de tableaux de James Ensor, où nous découvrons peut-être un autre James Ensor que l'expressionniste, que celui qui est passionné par les masques, la mort, les squelettes. Ici, nous sommes face à une série de natures mortes aux coloris très très vifs, où il est rappelé finalement l'installation du magasin de ses parents là-bas à Ostende. On retrouve des coquillages, mais également des objets qui sont influencés par l'art extrême oriental. Et puis nous avons cette vue intéressante qui nous montre pas la grande place de Bruxelles, mais la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles. Donc un angle de vue tout à fait particulier. On est en hauteur, on est en hiver, puisqu'on voit un ciel un peu blanc-orangé, mais surtout qu'on voit de la neige sur les toits. Et chose assez amusante, et j'ai envie de dire bien ensorienne, je ne sais pas si le mot existe, mais c'est ici à l'avant-plan, dans le coin gauche, vous avez une publicité, on est au début des affiches. Vous voyez apparaître quatre carrés dans les couleurs primaires. Et si on regarde bien, on a au milieu la signature Ensor. Se fait-il sa propre publicité ? À chacun d'y trouver une réponse, il en a envie.
Et de quoi les œuvres souffrent-elles le plus avec le temps ?
Principalement des écarts de température, les écarts au niveau de l'humidité aussi. Les variations des taux d'humidité. Contre ça, on est équipé aussi bien dans les salles d'exposition que dans les réserves. On a un contrôle sur les variations de température et d'humidité.
Mais on a un accrochage qui est intéressant ici d'un artiste liégeois, des environs de Liège en tout cas, qui est Auguste Donnet, qui va réaliser des œuvres très, très apprécié en général à Liège. Nous sommes dans la période symboliste, on est à la fin du 19e siècle. Beaucoup de ses œuvres, on peut le voir, sont des pastels ou des aquarelles ou des techniques mixtes sur des supports comme du carton, du papier très épais. Et on voit d'ailleurs transparaître un petit peu le support par en dessous des éléments colorés. On retrouve des paysages que l'on connaît assez bien dans la région, des paysages de dégel, entre autres, ici, comme le premier. Mais nous voyons également un artiste peintre qui pratique d'autres techniques, une peinture à l'huile au milieu, une très jolie petite nature morte, et qui est tout à fait dans l'esprit du japonisme de l'époque. Et si on se rapproche, nous allons voir...
Isabelle Verhoeve.
Un petit masque. Pour pratiquer le théâtre de Nau, on a des jarres, on a des récipients en porcelaine, nous avons un éventail tout à fait caractéristique de l'Extrême-Orient, un élément de tissu qui rappelle ce qu'on peut rencontrer sur les kimonos, et voilà une nature morte, un genre tout à fait classique, mais cette fois-ci qui met en scène des objets étrangers, exotiques, comme c'était à la mode à la fin du 19e siècle.
Les poussières aussi, évidemment.
C'est le fait également pour les collections ici à Liège que bien sûr il y a des acquisitions qui ont été achetées comme on dit, mais la collection repose également sur de nombreuses donations, des fonds d'atelier, des artistes qui de leur vivant ont donné, mais aussi des collectionneurs comme le docteur Jaumin, comme Grain d'Orge plus tard, etc. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir de très belles, très riches et très variées collections ici à Liège. Plus le cas particulier de la vente de Lucerne qui est un fait d'histoire tout à fait extraordinaire et unique.
J'ai des vieux coups de cœur, je suis toujours contente de revoir le petit Nicholson dans les tableaux des années 50. Ça. Dans les plus anciens, j'aime bien Van Rysselberghe, les Sœurs Slovak. Et alors dans les abstraits, je les aime tous en fait. On a fait une sélection, malheureusement, il y en a encore beaucoup d'autres qui sont aussi beaux, mais voilà, on a au moins un petit aperçu de ce qu'était l'ancien musée d'art moderne.
Les œuvres défilent après les paysages, viennent ensuite ici toute une série de portraits, et puis tout ce qui concerne le mouvement surréaliste avec des œuvres majeures de Delvaux, avec d'autres de Magritte, et juste à côté, eh bien, une partie est consacrée au mouvement Cobra, avec des œuvres de Alechinski, de Appel, entre autres.
Il y a un nom qui me vient à l'esprit d'une dame que j'ai rencontrée chez elle, ici à Liège, José Picon.
Oui, c'était une amie à moi, oui. Alors, j'admire beaucoup son travail, donc j'ai fait plusieurs expos d'elle, j'ai écrit des textes sur elle. Et donc, ici, il y a une œuvre exposée à l'étage du dessus, et il y en a une à l'étage en dessous. On aurait pu en montrer beaucoup d'autres, parce qu'on en a quand même pas mal dans les collections. Mais c'est une artiste magnifique, qui a malheureusement disparu.
Jean Marquet.
De faire en sorte que le visiteur soit confronté à des mini-événements tout au long de son parcours. C'est le génie de Françoise Safin, c'est qu'elle sait créer ces événements par des choses très simples, simplement un espace un peu plus grand entre deux tableaux, et on n'est plus dans le rythme 20 cm entre chaque tableau.
On va alors arriver dans une partie importante de l'exposition qui est consacrée au début de l'abstraction pour arriver vers l'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique. Et il faudrait peut-être épingler quelques œuvres intéressantes qui sont des œuvres de Sonia Delaunay et également de son mari Robert Delaunay. Nous sommes ici dans la période de l'orphisme avec tout un travail de la couleur qui est tout à fait intéressant. Et à côté de ce duo, on a des œuvres également d'un artiste français important qui est Harpe.
Elle a décalé le nouveau Picasso, là. C'est extraordinaire pour moi. Oui, c'est créer l'inattendu, c'est faire dialoguer les œuvres. Et ça, elle est vraiment très, très forte. Hein. Des toiles qui sont régulières, puis tout à coup, il y a un plus grand espace et on va voir.
Un thème important en Wallonie, c'est celui de l'industrie, avec des œuvres d'artistes très connus, comme Constantin Meunier, comme une œuvre très importante d'une femme, Cécile Douard, qui s'est intéressée à la condition féminine ouvrière, je vais dire, mais également avec des gravures de Jean Donnet et des compositions beaucoup plus récentes de Thierry Wezel avec des sérigraphies ou de Michael Nicolaï, un jeune artiste qui a obtenu plusieurs prix ces dernières années et qui nous rappelle la présence des hauts fourneaux dans le bassin sérésien, lui aussi avec des sérigraphies qui sont extrêmement éclatantes avec des aplats de teintes très très saturées dans les tons rouge, vert et le noir.
Thank you. Jean Hélion, je lis Coutterne, 1904, Paris, 1987, mur renversé, 1950.
C'est une œuvre de Jean Hélion, qui est un artiste en fait qui commence dans l'abstraction. Il est un membre du groupe Abstraction-Création en 1930. Il est très proche de Piet Mondrian, de Van Tongerlo, de tout un courant, je dirais, qui remet en question la figuration en la refusant et en travaillant essentiellement sur les formes et les couleurs, avec un discours qui est parfois très théorisant et très dogmatique aussi.
Alain Delaudois.
Avec aussi le recours à un alphabet des couleurs, un lexique pictural qui est quand même très riche, très inventif, si on pense à Auguste Herbin, par exemple. Et Lyon fait partie de ce courant. Par mariage, il est amené à vivre aux États-Unis pendant les années 30. Et il devient très reconnu là-bas. Il est exposé dans les musées, dans les galeries, comme un représentant typique de l'abstraction européenne. Et donc il va marquer toute une série de peintres américains qui sont dans l'abstraction après, dans les années 50. Motherwell, par exemple, ou Jackson Pollock, Frank Stella, des gens comme ça.
Alain Delaudois.
Et Lyon, en fait, à la fin des années 30, rentre en France. C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur le travail pictural. Il a déjà d'autres préoccupations. Et puis la guerre survient. Il est mobilisé, il est fait prisonnier, il parvient à s'évader dans des circonstances un peu rocambolesques. Mais bref, pour lui, la peinture ne peut plus être exactement celle qu'il faisait. Il veut faire intervenir des éléments du réel, du quotidien qu'il a vécu, de ce qu'est la dureté de l'occupation, de ce que vivent aussi les personnes. Et donc il entreprend une recherche tout à fait nouvelle où il délaisse progressivement l'abstraction pour revenir vers la figuration. Et quand il rentre en France, dans les années 45-47, il est dans un courant figuratif qui n'a absolument aucun succès à l'époque, puisque c'est l'émergence de l'abstraction, un nouveau langage pictural qui va révolutionner quand même une bonne partie de l'art à cette époque-là. Et Hélion fait un petit peu figure de personnage destructeur, puisque c'est un renégat en quelque sorte. Il a trahi la cause de l'abstraction pour faire de la peinture figurative. Et donc, il entame une série de peintures de nus, des nus assis, des nus couchés, des nus au tablier. Ce sont donc les années 47-50. Et il expose dans l'ancienne galerie où il exposait précédemment, et c'est un, ce qu'on dirait un four. C'est vraiment, pour lui, une déception d'abord. Et puis en plus, personne ne le suit, ni la critique, ni le public. Il continue quand même, et donc il fait cette peinture qui s'appelle « Nu renversé » et qui est elle-même un choc visuel, parce que pour l'auditeur qui nous écoute, c'est une peinture qui est frontale, mais qui bouleverse le sens de la perspective physique. Elle est déjà à contre-courant de ce que pourrait être la représentation traditionnelle d'un nu pictural. Et Hélion dresse donc ce personnage féminin qu'on voit presque en surplomb, avec des éléments très simples. Le personnage féminin est sur un lit. Il dessine un fond qui est tout à fait, je dirais, simple, réduit à sa plus simple formelle expression, de la même façon que le nu lui-même tient compte de tout son passé de peintre abstrait. Et si on regarde les formes, les seins, le ventre, les rondeurs des cuisses, la cage thoracique, tout ça est fait de courbes et de ronds. Et si on regarde le reste du corps, il est fait de triangles et d'angles. Que ce soit les bras, les coudes, que ce soit les jambes, le sexe, les pieds. Et donc il y a une manière de garder son vocabulaire plastique venant de l'abstraction qu'il réussit à transfigurer et à mettre au service de sa création dans le domaine figuratif. L'œuvre en elle-même est assez étonnante. Hélion en peint une dizaine de nus renversés comme ça, il en reste peu. Et seuls quelques artistes vont dire à Hélion toute l'admiration qu'ils ont pour cette remise en cause. Ce sont des gens comme Balthus et Giacometti. Et avec des encouragements comme ceux-là, il va quand même tenir le coup. Et puis, l'année suivante, il va s'accorder une pause. Son exposition de nus n'a absolument pas marché. Les journaliers qu'il peint, les ouvriers, etc., ça ne fonctionne pas. Et donc l'année suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il peint des fleurs, des bouquets, dans des vases. Et quel type de fleurs? Des chrysanthèmes.
À vous écouter, Alain Delaunoy, on imagine aussi un artiste qui prend une carte de parti communiste. Ce serait possible?
Pour Hélion, il est loin du dogme du réalisme socialiste et n'est donc pas accepté du tout par les tenants de ce qu'on appelait l'idéologie jdanovienne. Hein. Chez Hélion, il y a une proximité avec Fernand Léger parce qu'effectivement, le figuratif reste une préoccupation majeure. C'est une interrogation, un questionnement. Comment est-ce qu'on peut encore faire du figuratif après toute l'histoire de l'art qu'on a derrière soi, sans ignorer tout ce que l'abstraction a pu amener? Et Léger se pose ces questions-là dès les années 20-25, en rejoignant aussi des artistes comme Jeanne Rey ou Aux Enfants, Charlotte Perriand dans le domaine de l'architecture. Voilà. Et Hélion est quelqu'un qui, dans la figuration, n'épouse absolument pas les codes du réalisme socialiste des années 50. Donc il est à la fois refusé par l'ancienne avant-garde de l'abstraction-création des années 30, il est reconnu par l'abstraction américaine qui va arriver dans les années 50 sur la scène internationale, et lui-même est encore renié par les tenants du réalisme socialiste de l'époque. C'est un tableau qui a été offert par Jean Hélion à la ville de Liège parce qu'il avait conscience qu'à cette époque, Liège était une ville où, grâce à l'impulsion notamment de Fernand Grain-d'Orge, il y avait moyen pour un artiste qui n'était pas nécessairement conventionnel d'exposer ses œuvres. Et effectivement, cette œuvre a été offerte par Jean Hélion en 1951 au Musée des Beaux-Arts de Liège et a été exposée dans toutes les expositions de l'époque qui étaient organisées par Fernand Grain-d'Orge, Ernest Van Zuylen, Marcel Florquin, au sein de l'APIAO, l'Association pour le Progrès Intellectuel et Artistique en Wallonie.
Bon, en 55.
Oui, on a pensé à la boule, parce qu'à ce moment-là, Bury aussi s'intéressait à la boule dans ses œuvres. C'était déjà des œuvres cinétiques, après son passage par le surréalisme, Cobra, Zéro, l'art abstrait.
Voilà, c'est vrai que nous autres, même les guides habituels, je vais dire, du musée, c'est une grande surprise et un grand bonheur que de découvrir toute une série de tableaux qui sont restés pendant de nombreuses années dans les réserves et qui sortent exceptionnellement dans cette exposition. Donc c'est encore une excellente raison de venir voir cette exposition qui est tout à fait incontournable pour l'hiver, le printemps et une partie de l'été de 2019.
Et la boule, c'est la légèreté.
J'ai eu ma première exposition à New York en 1964. Et elle a eu beaucoup de succès à ce moment-là. C'est ce qui a provoqué les expositions que j'ai eues dans des musées américains et d'autres, je n'ai pas la liste là, mais au Mexique, en Allemagne.
Les musées ont cherché à...
Oui, mais il y a une question de mode aussi. Hein. Il y a des choses qui se font à certains moments, d'autres qui ne se font pas. Il y a de la chance aussi qui joue dans la carrière d'un artiste. C'est un monde assez particulier, le monde de l'art.
On joue aux boules. C'est une dérision de ballon, encore plus léger.
Comme nous sommes en train de parler, bien, nous arrivons dans la salle qui est éclairée par la grande verrière dans le sous-sol et qui donne vers la roseraie du parc de la Beauverie, nous donnant eh bien, un beau paysage, finalement, comme une peinture. Et nous arrivons dans la salle qui est consacrée à Bury et l'art cinétique. On entend d'ailleurs peut-être un petit peu le bruit discret de ces machines puisqu'elles sont érectiles, rétractiles, c'est-à-dire qu'il faut les regarder attentivement, patiemment. Elles bougent très très légèrement et quelquefois elles ont un sursaut. Tout ça est une manière de mouvement aléatoire lié à la présence de l'électricité.
C'est ce qu'ils m'ont raconté. Hein.
Mais il y a des choses qui s'y passent et qu'il vaut mieux pas dire parce qu'on se fait des ennemis qui vous en veulent toute votre vie.
Et quand tu parles de mode d'ailleurs, je me souviens que tu citais un directeur de musée qui disait que jamais un moteur électrique n'entrerait dans son musée. Et aujourd'hui, on y introduit même des poubelles. C'est ça la mode.
On a ainsi dans un caisson une double tour métallique avec des pales qui rappelle peut-être un petit peu la tour de Nicolas Schoeffer qui est ici un petit peu plus loin dans le parc de la Beauvrie et qui est un chef-d'œuvre de cet artiste franco-hongrois.
Ça se passe comment vraiment? Vous entrez dans votre atelier?
Ben, c'est-à-dire que ça s'est modifié à partir du moment où j'ai eu un assistant en permanence qui m'exécute mes sculptures. Alors, évidemment, à l'époque où je ne l'avais pas, je devais travailler manuellement et il y avait toute une période de ma vie qui était un peu comme ça, assez sommaire au point de vue travail mental, quoi. C'est-à-dire que j'avais un travail d'exécution, un travail manuel qui était beaucoup plus important que le travail de conception, tandis que maintenant, c'est plutôt le contraire.
Ici, à côté de nous, nous avons une œuvre en bois qui bouge très très peu, mais quand elle bouge, le mouvement est très clairement délimité puisque les différents éléments qui bougent sont des billes en bois assez importantes. Et alors, une œuvre que j'aime bien personnellement, c'est le panneau que nous avons ici.
J'ai une période de travail de conception d'une sculpture, par exemple, qui peut durer plus ou moins longtemps parce qu'il y a toute une part technique qui entre en jeu. Par exemple, il y a environ 2 ans et demi, j'ai commencé à penser à faire des fontaines, c'est-à-dire ce sont des sculptures animées par le poids de l'eau. Bon, alors ça a nécessité tout un travail d'abord de réflexion, parce qu'il fallait amener l'eau dans les éléments mobiles et puis l'en faire sortir. Mais en même temps, les animer ces éléments mobiles. Alors, il y a eu la phase de réalisation qui a nécessité aussi beaucoup de tâtonnements et d'essais. Ça qui se sont faits avec l'aide de mon assistant. Et puis, à partir de ce moment-là, donc, ça a duré au moins un an, la mise au point a duré au moins un an. Et puis, après, on est passé à la réalisation d'autres sculptures de ces fontaines. Et là, le travail consiste à mettre ensemble des structures, à les rythmer, les équilibrer. Et puis, à partir du moment où, par exemple, dans ces fontaines précisément, moi je réalise une maquette, et puis à partir de cette maquette qui est assez petite, mon assistant réalise une plus grande, aussi en bois, sur laquelle lui va travailler, reprendre ses angles pour découper les tôles, puisqu'elles sont en général réalisées en acier inoxydable. Donc là il y a un travail bien précis de tôlier, quoi, qui prend tous les angles, qui les relève, qui les note, et puis les découpe, les retrace sur la tôle. Et à partir de ce moment-là, la chose m'échappe, c'est-à-dire que lorsqu'elle est finie, il y a des modifications qui peuvent être faites.
Paul Bury.
Si certaines choses ne vont pas. Mais ça me laisse toute une période très, très grande, en dehors de la sculpture proprement dite. C'est-à-dire ça me permet d'écrire, qui est une chose que j'aime toujours beaucoup. Et puis, j'ai aussi, pendant ces périodes-là, exécuté des estampes, ce sont des gravures à l'aide de bois, quoi, puis qui retracent le mouvement.
Qui est fait de toute une série, des centaines de sortes de petites épingles avec une petite tête. Un peu comme si on voyait une sorte de tapis ou de cheveux. Alors je ne dis rien, et simplement on regarde, et de temps en temps, on voit une petite tige qui bouge tout doucement. C'est tout en subtilité et c'est très amusant.
Le moteur est justement, lui, le, pour ainsi dire, le, une espèce de symbole de la répétition. Et mon problème a été justement de rompre cette répétition, cette rotation qui tourne toujours à la même vitesse et toujours au même endroit. Alors on retombe toujours sur les mêmes problèmes, que ce soit culinairement ou esthétiquement.
Je vous rappelle que vous écoutez Rencontre RTBF et nos premiers programmes, notre invité aujourd'hui, Paul Bury.
C'est très juste parce que moi-même, je ne sais pas où ça va me mener parce que j'ai établi une première intervention et puis elles vont être contrariées. Combien de fois, je ne peux pas le savoir. Ça, c'est en fonction de l'intérêt que je vais trouver dans le travail que je continuerai ou je stopperai, quoi. Donc ça, c'est le côté intéressant. Quelquefois, un peu désespérant, mais je suis dans une période probablement, je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis en meilleure période pour le moment, mais c'est pas certain non plus.
La charge émotionnelle est assez importante parce que tout le long du parcours, j'entendais sa voix.
Quand je faisais l'histoire de l'art, au fond, je n'ai pas fait d'études d'art proprement dit. J'ai fait l'histoire de l'art au début et j'ai voulu continuer à Paris. Et donc là, je me suis au contraire intéressée moi-même aux musées, aux artistes, aux œuvres et à des cours libres. Et à des cours libres du soir de dessin aussi d'ailleurs, des cours de dessin.
Vous l'avez connu, Alain Denonoy, Martoury?
Oui, c'était une personne extrêmement volontaire, avec un verbe tout à fait attachant, une façon de transmettre ce qu'elle avait voulu réaliser, qui était tout à fait extraordinaire, à la fois fort pédagogique, fort lyrique. Elle avait un souci de convaincre, une authenticité dans la parole qui était assez stupéfiante.
J'allais à la Grande Chaumière, des choses pareilles, c'était... Et là, j'ai vécu beaucoup plus dans la, comment est-ce que je dirais, dans l'effervescence, à ce moment-là, on pouvait parler de ça, de l'École de Paris. Mais en même temps, je dirais, peu satisfaisante dans mon histoire de l'art, dans mon apprentissage de l'histoire de l'art, j'ai eu la nécessité de revenir à des sources plus constructivistes. Que cette histoire de l'École de Paris à l'époque, qui était d'ailleurs, c'était pas encore Support Surface, mais il y avait quand même déjà quelques personnes, mais c'était pas proprement parlé Support Surface. Il y avait. Et donc je suis revenue, et là j'ai plutôt été me nourrir du côté du Stedelijk Museum, où j'avais vraiment non seulement les pères et mères européens, du début du siècle, des années 20 et 30, oui, sûrement. Et puis j'ai eu là l'appel aussi des Américains, ce qui a été assez important et qui m'a fait prendre vraiment une distance assez sérieuse par rapport à l'École de Paris et à Paris.
Alors nous sommes à Liège, au musée de la Beuverie, devant...
C'est un polyptyque de Martoury qui s'intitule « Montréal 84 ». Ce sont en fait sept peintures acryliques sur toile. C'est sa période, je dirais, où elle est encore en train de travailler le matériau toile, alors qu'elle commence déjà à travailler le matériau bois, PDF, aluminium, qui sera utilisé par la suite. Et donc ici, c'est une variation autour de six monochromes bleus et un monochrome blanc. Le tout est en hauteur, ce sont des œuvres qui s'accrochent à 50 cm du sol, et la plus haute monte jusqu'à 2 mètres, 2,20 mètres. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces œuvres, c'est qu'on y voit sur les tranches tout le travail pictural intense que Martoury pratiquées à l'atelier. Ce ne sont pas simplement, comme on pourrait le croire de manière superficielle, quand parfois on regarde une œuvre sur une représentation sur Internet ou autre, on voit juste une image bleue, avec des nuances de bleu. Mais quand on a l'œuvre physiquement en face de soi, on s'aperçoit du volume, on s'aperçoit de la matière, des couches qui se superposent, de la manière dont ça vit en fait.
Oui, Alain Delaunoy, à mon micro, quand je l'ai rencontré dans son atelier, elle me parle, et on va l'écouter, de bagarre. Oui, et j'ai pu aussi interviewer un artiste qui était son élève.
Alors, le réfectoire des moines à Tournu, à l'abbaye de Tournu en Bourgogne. Une très belle pièce de Marthe Wery, où elle avait décidé de travailler en fait sur des portes standards, je crois, des portes du commerce qu'elle recouvrait de couches de peinture allant du gris clair au vert, toute une gamme de verts, et disposées dans l'abbaye comme ça, sur des tréteaux renversés. C'est-à-dire qu'au fond, c'était plus l'étable des moines, c'était plus le réfectoire, ça devenait un champ de peinture, et les portes devenaient des tables, et certaines étaient accrochées sur le mur du fond, un petit peu au fond, pour moi, comme un tableau d'école. Mais là, c'est une lecture très très subjective. Moi, j'avais l'impression quelque part qu'il y avait vraiment, selon le terme de Marcelin Plénet, l'enseignement de la peinture, il se faisait vraiment à travers la peinture même. Et peut-être que je me permets ici une métaphore que Marthe n'a pas voulu.
Et qui est aujourd'hui disparu, c'est Alain Géronet.
Ah oui, tout à fait.
C'est une bagarre qui est intense, je pense, parce que elle disait elle-même qu'elle était capable de complètement refaire une peinture de fond en comble, la poncer jusqu'à l'os, et puis repartir dans une autre direction. Quand on a accroché ici les 7 éléments de Montréal 84, quand on regarde les dos, les revers vraiment de l'œuvre, on s'aperçoit de toute cette vie intense et de cette bagarre qu'elle a dû mener par rapport à la couleur et à faire vivre la couleur à sa façon à elle. Elle souhaitait en sortir vainqueur. Quand elle n'en sortait pas vainqueur, elle la mettait de côté et puis elle retravaillait par après.
Liège chef-d'œuvre. Regard sur la collection du Musée des Beaux-Arts de Liège. Jusqu'au 18 août.
Montréal 84, en fait, parce que tout simplement, on lui avait proposé une exposition personnelle à Montréal pour l'année 1984. Et donc, elle a travaillé à son atelier à Bruxelles sur une série d'œuvres qui devaient être accrochées là-bas. Marthe Wery accordait une grande importance au lieu où elle était exposée. Hein. L'architecture était une des données fondamentales de son travail. Donc le fait d'avoir travaillé pour Montréal, c'était aussi en fonction de l'espace dont elle allait disposer. Elle a donc réalisé toute une série de peintures, une série qui s'appelle Montréal 84, dont fait partie cet ensemble ici de 7 peintures. Et pour nous, c'est une œuvre tout à fait intéressante dans le cadre d'un musée, puisque c'est une œuvre qui a été exposée à Montréal en 84 et puis qui a aussi été exposée à la Biennale de Sao Paulo en 1985.
À la Boverie, avec Jean-Pierre Hupkens, Isabelle Verhoeve, Christophe Remacle, Françoise Safin, Jean Marquet, Alain Delaunoy, et les voix de Francisca Van de Piet, André D'Artevel, Valérie Lemaître, extrait du documentaire d'André D'Artevel intitulé « Le testament amoureux de Nel », Paul Bury, Jacqueline Léontry-Balthazar, Jacques Bourlet, Marthe Wery, Alain Géronet. Liège chef-d'œuvre, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Thank you.